France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19, un troisième vaccin homologué en France, celui d'AstraZeneca, au moment où on en apprend plus sur le vaccin fabriqué par les Russes. Et puis il y a ces variants qui courent toujours. Voilà une partie de l'équation du moment sur le front de la Covid-19. Bonjour Jean-Claude Manuguera.
Bonjour.
Vous êtes virologue, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Et la dernière info sur cette épidémie, elle nous vient du Royaume-Uni. Des scientifiques ont trouvé une nouvelle mutation du coronavirus, un variant du variant britannique, qu'il rendrait assez semblable apparemment à la version détectée en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez vu cette info. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Il est très difficile de s'inquiéter à chaque mutation. Ce qui est clair, c'est que le virus a l'art de chercher une voie pour échapper à notre système immunitaire, puisque ces mutations ont l'air d'apparaître de manière indépendante. C'est l'évolution naturelle du virus qui n'est pas encore forcée par la réponse vaccinale. Donc à surveiller comme le lait sur le feu, mais pas d'inquiétude à chaque mutation.
Mais c'est sans fin, ça peut muter comme ça à l'infini ?
Alors, il y a des possibilités infinies de mutations, mais le virus a quand même des contraintes et certaines mutations sont mauvaises pour lui. Et donc, la plupart d'entre elles sont éliminées naturellement.
Donc, une mutation, ça peut être aussi quelque chose de favorable qui rendra le virus moins puissant.
Alors, une mutation peut entraîner le suicide du virus, on va dire, ça peut entraîner de nouvelles propriétés pour lui. Ces mutations se produisent au hasard et sont sélectionnées par le milieu dans lequel évolue le virus. Et ce milieu-là, c'est le corps humain avec ses stratégies de défense.
Alors, bien évidemment, ça pose la question aussi des vaccins. Comment sait-on si les vaccins actuels fonctionnent contre les variants et peut-être les futurs variants à venir ? Je prends l'exemple du vaccin russe dont on parle beaucoup là depuis hier. La dernière étude date de l'automne. À cette époque, il n'y avait pas encore tous ces variants. Comment on sait s'ils sont efficaces, les vaccins ?
Alors d'abord, la plupart des études des vaccins qui sont actuellement sur le marché ont été faites avant l'apparition majoritaire des nouveaux variants, notamment du britannique. Pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est l'efficacité des anticorps contenus dans les sérums des patients qui ont été soit infectés, soit vaccinés, pour voir quel est le pouvoir neutralisant, le pouvoir protecteur de ces vaccins ou des infections précédentes. Il semblerait que pour le vaccin britannique, il n'y ait pas de diminution de cette efficacité. Pour les deux autres, le sud-africain et le brésilien, il y a une baisse de l'efficacité, mais qui n'est pas complètement annulée.
À propos d'efficacité, depuis hier, on sait que le vaccin russe est efficace à plus de 91%, ce qu'il place dans le trio de tête des vaccins les plus efficaces. La Russie, qui a d'ailleurs, je le rappelle, a été le premier pays au monde à homologuer un vaccin. Vous trouvez que les Européens ont eu tort de le regarder avec méfiance ? Au début ?
Non, parce que je pense que c'est pas un regard avec méfiance, c'est que pour évaluer un vaccin, il faut se baser sur des données, et les données ont été publiées tardivement, les données publiées dans un format standard scientifique, et donc tant que les données scientifiques n'étaient pas disponibles, il était difficile de se faire une idée, et quand on ne peut pas se faire une idée, effectivement, on peut émettre des avis qui sont pas tout à fait conformes à ce qu'ils devraient être. Donc il faut un peu de patience et attendre les résultats.
La recherche russe, elle est reconnue dans ce domaine. Est-ce que le centre russe Gamaleya, là, qui a trouvé ce vaccin, il a bonne réputation ?
Les Russes ont été toujours très forts dans les sciences biologiques et notamment en virologie. D'ailleurs, la virologie est un peu née en Russie. Et donc l'Institut Gamaleya est un institut qui est connu depuis très très longtemps.
Il vous arrive d'ailleurs, vous, de travailler avec eux, de faire des collaborations. Je rappelle que vous êtes virologue à l'Institut Pasteur.
Il m'est arrivé de visiter l'Institut Gamaleya, mais ça n'a pas débouché sur des collaborations.
À propos de collaboration, vous avez vu qu'AstraZeneca a lancé une collaboration avec ce labo russe, puisque AstraZeneca explique que leurs vaccins sont assez semblables en termes d'élaboration, et il veut tester une combinaison de ces deux vaccins. Ça se fait souvent, ça ?
Non, ce n'est pas très fréquent, mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est effectivement le vaccin Sputnik qui est basé sur le même type d'approche que le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Janssen, par exemple, et c'est basé sur un adénovirus. Mais alors, le vaccin russe a une particularité très intéressante, c'est que contrairement aux autres, il a deux virus vecteurs, c'est-à-dire qu'il y a deux doses, vous savez, la première et la deuxième. Mm-hmm. La première est faite avec l'adénovirus 26 et le deuxième est fait avec l'adénovirus 25. Ça, c'est très intéressant parce que en fait, ce sont des virus atténués, vecteurs atténués, qui ont besoin de se multiplier un tout petit peu pour provoquer l'immunité. Et lors de la deuxième dose, on peut avoir l'immunité contre la première qui va un peu lutter contre ce virus vecteur. Et bien, dans le vaccin russe, l'idée, c'est de mettre un autre virus vecteur pour ne pas avoir cette interférence avec l'immunité sur la première dose, sur le vecteur et pas sur le SARS-CoV-2. Donc, c'est effectivement intéressant et une approche peut-être mixte qui est prometteuse.
Et ça veut dire que ça développe davantage les défenses immunitaires de celui qui reçoit ces deux doses ?
Ça veut dire qu'en fait, on s'affranchit un peu de la réponse immunitaire contre le vecteur au moment de la deuxième dose.
Et les vaccins chinois, vous les regardez comment ? Vous, avec méfiance ou avec intérêt ?
Alors, pour être honnête, je n'ai pas évalué les données du vaccin chinois. Alors, il y a plusieurs vaccins chinois, hein, parce qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont en cours d'évaluation. Le plus répandu est un vaccin à virus inactivé, qui est une méthode extrêmement traditionnelle et peut-être la plus facile de produire le virus, mais je n'ai pas vu les données pour en parler plus que ça. Les vaccins atténués à virus vecteur, pour l'instant, sont ceux avec les vaccins ARN qui semblent les plus prometteurs quand même.
Et une dernière question, hein, chez Pasteur, à l'Institut Pasteur, on sait que l'un des projets a été abandonné. Est-ce que voilà, vous avez su rebondir et est-ce que les autres avancent bien ?
Écoutez, l'idée pour l'approche vaccinale, c'était d'en avoir plusieurs, de pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est notamment des financements qui ont été donnés pour faire ces différentes voies d'approche. Vous savez, il y a les vaccins vectorisés atténués, les vaccins atténués qui sont pas à l'ordre du jour pour SARS-CoV-2 pour plusieurs raisons. Il y a les vaccins à virus inactivé dont on vient de parler pour les Chinois, les protéines recombinantes, et c'est vrai, et les vaccins ADN et ARN. Donc, toutes ces approches étaient intéressantes au départ. Certaines ont débouché sur des succès et d'autres sur des échecs. C'est un peu la vie de la science. Mais ce qui est important, c'est que dans le monde, toutes ces approches ont été menées.
Merci Jean-Claude Manuguera, virologue responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.